France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Qu'est-ce que les crises géopolitiques actuelles font à l'Union européenne? Comment la transforme-t-elle, la renforce-t-elle, lui permet-elle aussi de construire presque malgré elle un État européen? Et l'Europe vit-elle au fond une accélération soudaine de sa propre histoire? Deux invités, un invité plutôt, et un collègue pour vous interroger. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, géographe, chercheur à Sciences Po, vous signez aux éditions du CNRS L'Europe, un État qui s'ignore, un ouvrage qui est apparu le 15 janvier dernier. Et vous avez par ailleurs fait paraître L'Atlantisme est-il mort? Vive l'Europe aux éditions de l'Aube. Et à mes côtés, donc Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et vous m'accompagnez donc dans cette interview. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Geopolitical shocks can and must
Les chocs géopolitiques peuvent et doivent être des opportunités pour l'Europe. Et selon moi, les bouleversements sismiques que nous traversons aujourd'hui sont une opportunité. Ils rendent nécessaire la construction d'une nouvelle forme d'indépendance européenne. Ce besoin n'est pas nouveau ou en réaction à des événements récents. C'est un besoin structurel et impératif depuis bien longtemps. Quand j'ai utilisé l'expression « d'indépendance européenne » il y a un an, j'étais surprise des réactions sceptiques. Mais aujourd'hui, il y a un vrai consensus.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et c'est à l'historien que je m'adresse en premier lieu, Sylvain Kahn. L'Europe, cet objet, l'Union européenne, cet objet que vous connaissez si bien, vit-elle une accélération de sa propre histoire?
Oui, manifestement oui. Pour des choses que tout le monde a bien identifiées, je crois, puisqu'il y a successivement, dans un temps très court, le choc du Covid, qui est un choc, qui est non seulement un choc, mais qui, je pense, n'est pas du tout une opportunité. Enfin, on va laisser à Madame von der Leyen la responsabilité de ce terme, parce qu'il y a quand même eu 1 350 000 morts. C'est pas rien. À peine on sortait du Covid, ou on faisait en sorte d'en sortir ou d'amortir ce choc et les conséquences des confinements, que l'Ukraine était envahie par la Russie. Il suffit de rappeler qu'il y a près de 2300 km de frontière entre l'UE et la Russie et près de 1300 km de frontière entre l'UE et l'Ukraine, pour qu'on comprenne tout de suite comment cette invasion de l'Ukraine par la Russie met l'Europe en très grand stress. Donc c'est un choc, parce que dans les deux cas, c'est quelque chose d'extérieur. Et puis enfin, alors ça, on s'y attendait pas forcément, mais le retour de Trump en 2025 a pour conséquence, selon moi, j'ai été un peu débattu, mais le fait en tous les cas que les États-Unis d'Amérique lâchent les Européens et que d'une certaine manière, maintenant, les Européens sont tout seuls pour assurer la défense de leur territoire. Voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup. Et on parle, sans même parler, du rapport Draghi.
Mais elle me trouve votre réponse, Sylvain Kahn. Vous mesurez l'accélération de l'histoire européenne à la force des chocs qu'elle subit,
Ben oui.
Plus qu'à la vitesse de réaction?
Eh bien, vous avez raison de faire le distinguo. Il se trouve que sur ces trois chocs, appelons-les comme ça, sur les deux premiers, il y a une vitesse de réaction qui est, me semble-t-il, grande. On peut parler de célérité. Sur le troisième, par contre, la vitesse de réaction est assez lente, sans doute parce que les Européens ont énormément de mal, et peut-être davantage les leaders que les opinions publiques. Et quand je dis les leaders, je parle pas seulement des dirigeants, je parle aussi, disons, de la classe dirigeante dans les ministères, dans les états-majors, dans les entreprises, ont énormément de mal à réaliser qu'on est peut-être, on est sans doute en train de rentrer dans un monde où il y a comme un schisme au sein de l'Occident entre les États-Unis qui s'isolent et tous les autres. Mais oui, vous avez raison. Ce qui fait que la construction européenne s'accélère, ou à l'appui de cette hypothèse, c'est qu'elle réagit, c'est la manière dont elle réagit ou pas à des défis qui lui sont posés.
Julien Bisson.
Mais quand Ursula von der Leyen dit que ces chocs sont une opportunité, est-ce que ça veut dire que l'Europe a besoin de ces chocs pour évoluer, qu'elle ne sait grandir finalement que dans l'adversité?
Bon, moi j'aime pas le terme d'opportunité, parce que dans le terme d'opportunité, il y a quelque chose de... Il y a quand même un peu...
Il y a un fond de cynisme.
Oui, alors c'est soit du cynisme, soit un fond de positif. On dit, ah bah tiens, c'est une opportunité, parce que c'est un peu comme le proverbe « à quelque chose, malheur est bon ». Bon, alors on peut peut-être dire ça dans sa vie quotidienne, quand il arrive un petit souci qui n'a pas beaucoup de conséquences. Mais là, encore une fois, s'agissant du Covid, 1 350 000 morts et 3 confinements, s'agissant de la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie, on entend parler, grâce à vous et aux médias, des conséquences sur la vie des Ukrainiens tous les jours. Et le fait que les Américains lâchent les Européens, ça pose d'énormes problèmes. Donc moi, j'appellerais pas ça une opportunité. Mais effectivement, d'une certaine manière, ça met les Européens au pied du mur. C'est-à-dire qu'effectivement, soit ils réagissent, et en réagissant, ils inventent de nouvelles politiques publiques, ils parviennent à surmonter des défis en créant, en étant créatifs, innovants et inventifs, du point de vue politique, du point de vue des politiques publiques, du point de vue de leur vie politique européenne. Soit c'est pas le cas. Et en effet, là où, disons, je pense que Madame von der Leyen dit quelque chose que on peut, disons, qui est plutôt démontré par les sciences sociales, c'est que oui, historiquement, ça fait 80 années maintenant, 3 générations, donc c'est vraiment pas une mode la construction européenne. Donc je pense que maintenant, on peut peut-être arrêter de se demander régulièrement si elle va pas s'effondrer demain, parce que il y a des choses qui sont... Il y a des régimes politiques qui ont duré beaucoup moins longtemps que 80 ans, je sais pas, la 4e République, par exemple. Donc, on peut dire que dans les crises, ou face aux chocs, ou face aux défis, elle se renforce. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Hein. La crise constitutionnelle de 2005, ça a quand même traîné pendant 15 ans. Hein, donc, la crise des dettes souveraines et de la zone euro, quand bien même les Européens ont inventé des dispositifs, des boîtes à outils, des politiques publiques pour faire en sorte que cette crise soit cautérisée, tout le monde avait quand même l'impression, au milieu des années 2010, que l'Europe faisait partie du problème et pas de la solution. C'est seulement à partir du Covid et des solutions qui ont été inventées par les Européens ensemble au moment du Covid que les gens ont commencé à nouveau à se dire « Tiens, la construction européenne fait partie de la solution plutôt que du problème. »
Vous connaissez forcément cette citation, Sylvain Kahn, elle est récente. « Sometimes it's too slow for sure ». C'est évidemment le président Emmanuel Macron qui s'exprimait à Davos pour regretter notamment la lenteur de l'Union européenne. Est-ce le premier grief que l'on peut adresser à l'Union, sa lenteur ?
Alors, vous posez une question qui est très débattue dans la communauté des scientifiques qui s'intéressent à l'Europe et qu'on appelle les européanistes. Donc moi, je fais partie de ceux, et vous rappeliez que j'ai une double casquette d'historien et de géographe, je fais partie de ceux qui répondraient non à votre question. Je pense pas que l'Union européenne se caractérise par sa lenteur.
Alors expliquez-nous pourquoi, parce que ça va peut-être, j'allais dire, contre l'avis commun, justement.
Ouais, c'est vrai. C'est un peu contre-intuitif comme réponse, on va le dire comme ça. C'est un peu contre-intuitif parce que, disons, ce qui me fait dire ça, c'est que, comparons avec la situation de la République française en ce moment. Ça vient jamais à l'idée de personne. Aucun commentateur, aucun journaliste ne dit oh là là, qu'est-ce que la France est lente là avec ce budget. Non, on dit.
Là, on vous dira peut-être que la situation française en ce moment est un peu particulière depuis la dissolution.
Oui, mais on dit pas lente. On dit elle est bloquée, la situation politique est fragmentée. Oh là là, ces partis politiques français qui sont pas fichus de s'entendre ensemble et de dégager un consensus pour l'intérêt général, alors que les Belges savent le faire, les Espagnols aussi. Voilà. Mais on dit jamais c'est lent. Or, on est bien d'accord. Ça fait juste 1 an et demi, enfin 2 ans, que on met des mois et des mois et des mois à adopter un budget. Voilà. Et vous me demandiez, est-ce qu'on peut dire ça de l'Union européenne? Sur un certain nombre de problèmes à résoudre, il y a des décisions qui ont été prises très rapidement. Alors, je me répète, la façon dont les Européens ont réagi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en 24 heures, c'est-à-dire 24 heures après cette invasion, les Européens, le Conseil européen s'était réuni, donc les chefs d'État et de gouvernement s'étaient réunis et avaient décidé du premier train de sanctions contre la Russie et des premières aides à l'Ukraine. Et depuis, tous les 6 mois, les Européens revotent des aides à l'Ukraine. Donc maintenant, les Européens, dans leur ensemble, sont le premier aidant, tout type d'aide confondue, de l'Ukraine, plus que les États-Unis, y compris sur le plan militaire. Et ça s'est fait très rapidement. Sur le Covid, c'est pareil. Sur le Covid, en réalité, les décisions ont été prises au bout de 3 semaines. Bon, voilà. Et l'Union européenne, on oublie souvent de le remarquer, c'est un État léger, en fait. C'est un État léger, c'est-à-dire que c'est 30 000 fonctionnaires à peu près. Alors évidemment, ils n'ont pas à s'occuper ni du ramassage des ordures, ni des jardins, on est bien d'accord. Mais donc en fait, c'est un État assez agile, me semble-t-il.
On va revenir sur cette notion d'État européen, mais avant cela, Julien Bisson.
Oui, un autre stigmate qui est souvent accolé à l'Europe, c'est celui de son impuissance, sa prétendue impuissance face aux grands défis géopolitiques qui nous sont présentés. Est-ce que là aussi, c'est une vision déformée de la réalité de ce qu'est l'Europe aujourd'hui ?
Ah, disons déformée. C'est une perception, c'est une représentation. Et vous savez qu'en géopolitique, c'est Yves Lacoste qui a fait partie des premières à nous enseigner l'importance des représentations géopolitiques. C'est une représentation qui est forte, alors surtout en France, hein, beaucoup moins en Belgique, beaucoup moins en Allemagne, en fait, beaucoup moins dans les pays de culture politique fédérale. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne ? C'est contre-intuitif, surtout pour les Français qui sont biberonnés à Jean Bodin depuis qu'ils rentrent au cours préparatoire et en classe de sixième. Hein, c'est-à-dire, la souveraineté ne se divise pas. Et dans la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme, on a la République une et indivisible.
Biberonné également à la vision gaullienne de l'Union européenne, par ailleurs. Hein.
La vision gaullienne de l'Union européenne, elle était déjà en débat au moment de la campagne électorale de 65. Non, justement, vous avez raison de dire que De Gaulle avait une vision, là, il faut carrément appeler un chat, souverainiste. En gros, De Gaulle est le prédécesseur de Thatcher, s'agissant de sa vision de l'Europe. Hein, voilà. Donc, la première fois qu'il y a eu un gouvernement souverainiste dans l'Union européenne, c'était du temps de De Gaulle. Mais pendant la campagne électorale de 65, justement, il avait en face de lui deux candidats, Le Canuet et Mitterrand, qui, eux, faisaient campagne sur le mode « nous, on veut vraiment construire l'Europe ». Donc, il y a toujours eu un débat en France entre ce qu'on pourrait appeler des européistes, favorables à un approfondissement de la construction européenne, et puis, effectivement, des tenants d'une culture politique plus souverainiste, qu'on trouvait soit à droite, soit à gauche. Bon. Mais donc, par rapport à la puissance, est-ce que l'Union européenne est impuissante ? Alors, moi, il me semble que si on regarde les résultats, c'est-à-dire pas le processus décisionnel, quand on regarde le processus décisionnel, on a l'impression que l'Union européenne, c'est le bordel, c'est lent, que les gens passent leur temps en réunion, à délibérer, parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne, c'est un chef d'État collectif qui s'appelle le Conseil européen. Donc, il n'y a pas... Alors là, encore une fois, les Français, si j'ose dire, on est habitués. Ça, mes collègues de sciences politiques ou constitutionnalistes expliquent ça très très bien. Alors avec Trump, c'est en train de changer, mais avant Trump, d'accord, le président français de la Ve République était le président d'un pays démocratique qui avait en fait le plus de prérogatives, le plus de pouvoir. Ça veut dire, c'est quand même... Enfin, encore une fois, jusqu'à Trump, d'accord, mais est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de devenir une démocratie illibérale ? Mais jusqu'à Trump, le président américain, il ne pouvait pas faire comme Hollande en 2013, c'est-à-dire il ne pouvait pas se lever à 4h du matin, décrocher son téléphone, appeler son chef d'état-major particulier, qui appelait le chef d'état-major de l'armée française, qui appelait le chef d'état-major de l'armée de l'air, et puis 3 heures après, il y avait les avions qui étaient en partance pour survoler le Mali. Aux États-Unis, normalement, avant Trump, c'est pas possible. Donc, les Français, évidemment, ils ont l'impression qu'une présidence ou un État puissant, ça s'incarne par un chef ou une chef d'exécutif qui peut prendre des décisions en un temps très rapide. Et l'Union européenne, effectivement, c'est pas ça. Mais c'est pas pour autant que les décisions ne sont pas prises avec des résultats.
Julien Bisson, encore.
Alors, venons-en maintenant à la thèse de votre livre. L'Europe, un État qui s'ignore. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était un État léger. Peut-être déjà ce mot, État. Et ça peut être étonnant de parler de l'Europe comme d'un État.
Oui, je sais. Bon, c'est un peu pour ça qu'avec CNRS Éditions, on a choisi ce titre. Parce que, comment dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, je veux dire, moi, je ne suis pas, même si je suis très passionné par mon sujet, je ne suis pas en mission. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, j'ai des tas de collègues qui considèrent qu'il ne faut pas appeler l'Union européenne un État, et leurs démonstrations sont robustes. Est très respectable, et dans la vie politique, il y a des citoyens, des partis, enfin, il y a des tas de gens qui disent, non, l'Union européenne n'est pas un État, évidemment. Et moi, ce qui me paraît important, c'est justement, comme on dit au foot, de faire un changement d'aile pour dire, mais posons-nous la question. Rien qu'en se posant la question, déjà, ça veut dire qu'on pourrait voir l'Union européenne autrement, alors même si on aboutit à une réponse qui est, non, finalement, c'est pas un État, ça veut dire que déjà, rien qu'en se posant la question, ça veut dire qu'on amène nos critères.
Bon, mais vous y répondez, Sylvain Kahn, dans ce livre.
Oui, moi, oui.
Vous défendez la thèse qu'il s'agit bien d'un État.
On est d'accord. Dans mon cas, oui, mais je ne voudrais pas que les auditeurs imaginent que je pense que c'est la seule réponse possible. Voilà, c'est une réponse possible. Mais ce qui me paraît important, c'est de poser la question. Pourquoi ? Parce que depuis que l'Union européenne existe, depuis 1950 avec la CECA ou 57 avec la CEE, on ne veut surtout pas dire ce qu'elle est. Alors, il y a une formule très célèbre de Jacques Delors, dont les plus anciens se rappellent, qui a été de dire deux choses. D'une part, l'Union européenne, à l'époque, la CEE, est une fédération d'États-nations.
La CEE, la Communauté économique européenne.
Merci. Et puis, il a dit aussi, alors ça plaît énormément, c'est un OPNI, un objet politique non identifié. C'est hyper pratique. Mais à un moment donné, d'accord, enfin, ça fait 80 années que la construction européenne existe. On pourrait peut-être essayer, pas seulement de dire ce qu'elle n'est pas, mais de dire ce qu'elle est. Voilà. Donc, c'est une tentative, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai aucun problème avec le fait que cette idée, cette thèse, comme vous le dites, soit débattue. Mais du coup, argumenter, parce que...
Mais alors, justement, mais nous, avec Julien et moi, nous vous prenons au sérieux, nous vous avons lu.
Et je vous en remercie.
Expliquez-nous les arguments qui viennent étayer la thèse selon laquelle l'Union européenne pourrait être considérée comme un État.
D'accord, et ben je vais vous donner quelques arguments.
Nous vous écoutons.
Merci. Alors, d'abord parce que il y a quelque chose qui est, pour le coup, très intuitif. C'est que l'Union européenne bat monnaie. Voilà. Alors, le contre-argument, je le connais. Ah oui, mais tous les États de l'Union européenne n'ont pas adopté l'euro. Bon, d'accord. Mais n'empêche que maintenant, vous avez plus d'une vingtaine d'États membres de l'Union européenne qui ont, je vais employer un mot, à mon avis, qu'il faut faire évoluer, mais peu importe, qui ont délégué leur souveraineté monétaire à une banque centrale européenne. Alors, ça, je pense que tous les auditeurs peuvent en témoigner. Quand on arrive à l'école puis au collège et qu'on apprend, soit en philosophie, soit en littérature, soit en histoire, soit en géographie, à définir un État, en général on dit « Ah ben l'État, c'est celui qui exerce la souveraineté régalienne. » Et dans le régalien, il y a la monnaie, le monopole de l'émission de la monnaie. Bon, alors, je sais, ça ne suffit pas à en faire un État.
Alors, deuxième argument.
Le deuxième argument, c'est que quand on... Voilà, je vais vous prendre cet argument-là. À l'ONU... L'Organisation des Nations Unies est réputée être la communauté de tous les États du monde. Voilà, et il y en a 192 ou 193. Bon, alors c'est vrai, il n'y a pas l'UE. OK. Mais par contre, au G7, les 7 pays soi-disant les plus industrialisés, au G20, les 20 pays les plus riches du monde, il y a l'UE. Et ça s'appelle comme ça, les 20 pays les plus riches du monde. Il y a l'Union européenne. Ah bon, alors peut-être que l'Union européenne n'est pas un État, mais ça serait un pays. Enfin, on n'est pas loin déjà. Puis alors, je prends l'Organisation mondiale du commerce. Alors ça marchait mieux quand l'OMC était en pleine forme. Elle est en panne depuis 10 ans. Mais alors, à l'OMC, c'est encore mieux, parce que tous les États membres de l'UE ont dit à l'Union européenne, c'est-à-dire à eux, en fait, tu y vas. Il n'y aura que l'Union européenne à l'OMC. Mais en fait, c'est pareil avec le Mercosur. Il n'y a plus d'OMC, mais maintenant, il n'y a que des accords de commerce qui sont de gré à gré, bilatéraux. Et bien, comme on vient de s'en rendre compte, c'est négocié par l'Union européenne parce que les États membres ont décidé que ça serait comme ça. Alors, on appelle comment l'Union européenne, du coup, qui a le monopole de la souveraineté de la politique commerciale extérieure parce que les États membres en ont décidé ainsi. Ça, c'est mon deuxième argument.
Julien Bisson, et après, moi, j'aurais peut-être des contre-arguments à vous soumettre.
Voilà.
Si on vous suit dans cette thèse que l'Union européenne est un État, encore faut-il peut-être le qualifier. On a des structures en tête, l'État-nation, l'Empire. Est-ce que l'Union européenne ressemble à l'une de ces structures ou est-ce qu'il faudrait encore convoquer un autre type d'État ?
Alors là, je vous remercie de poser cette question parce que précisément, c'est vrai qu'on a évoqué l'ONU. On va le dire comme ça, la représentation la plus communément partagée, pour définir un État aujourd'hui, c'est que c'est un État-nation. Voilà. Mais ce faisant, on a oublié, tout ce temps qu'on est, et quand bien même on nous l'a rappelé, encore une fois, à l'école, au collège et au lycée, et à la fac, pour ceux qui y sont allés ou qui y sont, on a oublié que finalement, l'époque historique où l'État est principalement, où les États sont principalement des États-nations, cette époque historique, d'abord, elle est très courte et elle est très récente. Et donc, dans l'histoire longue des Européens, il y a eu plein de formes étatiques, d'accord ? Les royaumes, les cités-États, les principautés, le Saint-Empire romain-germanique, l'Empire austro-hongrois, j'en passe, et des meilleurs. Eh bien, quand vous ouvrez un livre d'histoire, tout ça, on appelle bien ça un État. J'ai pas fumé la moquette. Hein,
Jusque-là, c'est bon.
Non, ok, voilà. Donc, on pourrait peut-être dire, bah, ok, donc l'État-nation n'est pas la seule forme historique possible de l'État. Et à partir du moment où vous avez des États-nations souverains et indépendants qui ont pleine conscience, comme on dit dans de très très bonnes émissions chez vos collègues de France Inter, en pleine conscience, décident de mutualiser des parts de souveraineté, on pourrait dire, tiens, c'est marrant, des États qui s'associent pour former quelque chose de nouveau, ils vont peut-être, en général, les États, qu'est-ce qu'ils savent faire à part des politiques publiques et de l'étaticité? Donc, ils vont peut-être produire un État. Alors, comment appeler cet État? Bah, déjà, on peut dire que cet État se caractérise par le fait que d'abord, il associe, il est composé d'États souverains et indépendants, ce qui est très étrange dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est la réalité, hein. Moi, j'y peux rien, je constate. Et deuxièmement, on pourrait qualifier cet État de supranational. Non pas post-national, mais supranational, pour une raison très simple, qui est que vous avez des États souverains et indépendants qui acceptent à l'avance, le jour où ils ratifient le traité européen, donc traité de Rome d'abord, puis traité de Lisbonne aujourd'hui, ils acceptent à l'avance de mettre en œuvre, sur leur territoire national, sur lequel ils sont souverains, des politiques publiques qui auront été décidées à plusieurs avec leurs copains, quand bien même ils auraient voté contre et mis en minorité. Ce qui vient de se passer avec le Mercosur.
Je vous avais promis de vous embêter, Sylvain Kahn. Alors, une question. Comment se fait-il que votre État européen, je le dis évidemment en plaisantant, du moins cet État européen, n'ait pas les trois missions régaliennes que l'on confère usuellement à l'État, à savoir lever l'impôt, organiser la police et structurer une défense, même si sur la défense, certaines choses sont en train de voir le jour, mais c'est plutôt organisé du point de vue, là aussi, des États-nations pour l'instant.
Eh bien, il n'a pas ces trois-là, mais il en a deux. Je vais vous répondre.
Lever l'impôt, tout de même, c'est fondamental.
Vous avez complètement raison, c'est fondamental, mais maintenant, l'Union européenne émet des bons du Trésor, c'est-à-dire à l'empreinte. Vous n'avez pas l'air convaincu quand on l'a fait, mais à moitié, c'est un fait. Il y a eu un grand emprunt au moment du Covid, et là, il vient d'y avoir un emprunt un peu moins grand, mais quand même très important, pour soutenir l'Ukraine.
Il y a énormément d'acteurs économiques qui empruntent sans être un État. Ce qui fait la singularité propre d'un État, c'est tout de même, encore une fois, pardonnez-moi, de lever l'impôt façon régulière.
Mais c'est vrai, c'est un très bon argument, et encore une fois, vers à moitié plein, vers à moitié vide, bon. Néanmoins, pour rembourser ces deux emprunts, parce qu'on parle quand même de bons du Trésor européen maintenant, donc vous êtes d'accord que, même s'il y a tout un tas d'acteurs qui empruntent sur les marchés, le terme de trésor, en général, désigne quand même un État. Donc, il y a des bons du Trésor européen maintenant, donc encore une fois, depuis 2020 avec le Covid et depuis 2025 avec l'aide à l'Ukraine. Et pour rembourser ces emprunts, dans leur grande sagesse ou leur grande folie, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire la Chambre, le Parlement des États membres, poussé par le Conseil européen, c'est-à-dire le forum, le chef d'État collectif des chefs d'État et de gouvernement des États membres, on dit, eh ben, on va inventer des impôts européens qui ne pèseront pas sur les citoyens européens, mais à la frontière, ça sera des genres de droits de douane à caractère écologique. Bon, voilà. Donc, vous avez raison de dire que, pour l'instant, on ne peut pas dire, en toute rigueur, que l'Union européenne lève un impôt, mais on est bien obligé de constater que l'Union européenne commence à non seulement emprunter, bon du trésor, ça c'est quand même un gros critère, et à trouver des modalités d'impôts extérieurs pour se rembourser.
Julien Bisson, donc ça très commence rapidement tous les deux.
Très rapidement, je vous asticote moi aussi. Vous nous disiez tout à l'heure que ça faisait 80 ans que le projet européen existait, qu'il fallait arrêter de se demander s'il allait s'effondrer. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça ne l'est pas aujourd'hui, à l'heure où les souverainismes nationaux semblent reprendre du poil de la bête, où ils forment la troisième force politique au Parlement? Est-ce que cet État peut s'effondrer?
En 30 secondes, Sylvain Kahn.
Alors oui, cet État peut s'effondrer parce que l'Union européenne, on va le dire comme ça, n'est pas un pays. C'est-à-dire la France ne s'effondrera pas alors que la République peut s'effondrer. Donc l'Union européenne est un régime politique. Donc oui, elle peut s'effondrer, elle peut disparaître, ça, tout à fait. Est-ce que c'est parce que les souverainistes gagneraient? Pourquoi pas? Mais ce qu'on voit depuis le Brexit, c'est que les anciens partis europhobes, type Rassemblement National, PVV de Geert Wilders et autres, ne sont plus europhobes, mais sont devenus eurosceptiques. Donc eux-mêmes ne disent plus on veut quitter l'Europe ou la détruire. Ils disent, bon, on veut se débarrasser de la Commission européenne, mais pas de l'Union européenne, pour faire vite.
On vous a embêté, Sylvain Kahn, par goût de la discussion, mais on recommande très très vivement
très appréciable.
Votre ouvrage « L'Europe, un État qui s'ignore », car les questions que vous y posez, effectivement, sont fondamentales et passionnantes. Par ailleurs, c'est une lecture accessible et extrêmement bien documentée. C'est chez CNRS Éditions. Julien Bisson, autre lecture recommandée, le 1 cette semaine, qu'est-ce que l'on y trouve ?
Eh bien, on se demande comment protéger notre cerveau à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maladie à Cordes-Lévis. On se penche sur toutes ces maladies neurodégénératives qui sont dues à la pollution, à l'alimentation, au mode de vie, à l'hérédité. On s'interroge sur toutes les façons de pouvoir s'en prémunir.
Deux lectures absolument passionnantes. Merci à tous les deux. Merci également à celles et ceux qui ont préparé, pensé cette émission. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine.